Nous bénissons le Seigneur et nous vous présentons toutes nos félicitations et tous nos souhaits aussi et pour cette nouvelle année, parce que pour cette année, c'est la première fois que j'ai l'occasion de vous entretenir. Nous bénissons le Seigneur. Le mois dernier, il y a eu des problèmes techniques. J'étais là, mon message était prêt, mais malheureusement, j'ai pas pu présenter. Et puis bon, et nous disons merci au Seigneur, au pasteur Sergo. Il avait déjà une cartouche dans son fusil. Donc, comme ça, il a dû rapidement me remplacer. Eh bien, tout est pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas vrai? Amen. Donc, ce matin, nous allons encore et réfléchir sur la parole de Dieu. Donc, nous allons faire une réflexion dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, et je vais lire les versets 1 à 3 pour vous. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle année. Et je vous rappelle, vous vous souvenez que nous étions l'année 2020 sous le regard du Seigneur. Est-ce que nous sommes encore sous son regard? Amen, bien sûr. Même s'il n'y a pas un thème cette année spécifiquement, comme Pasteur Sergo me l'a dit, mais nous sommes encore sous son regard et n'était-ce pas ça, nous ne serions pas encore vivants ce matin. Donc, continuez à demeurer sous son regard, mes bien-aimés, et continuons à l'adorer, à le servir. Et il est fidèle, notre Dieu, il continuera à prendre soin de nous. Et comme pasteur vient de le dire, j'allais le dire également, nous bénissons le Seigneur pour une certaine amélioration avec la maladie. Donc, nous espérons que ça va aller de mieux en mieux par sa grâce. Éphésiens, je vous salue tous les membres de l'oratoire et s'il y a des invités aussi, donc je vous salue et puis soyez de toute oreille pour écouter la parole de Dieu et il va continuer à nous bénir comme il le fait. Dimanche après dimanche et journée après journée. Éphésiens chapitre 4, 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Nous allons aborder un thème assez important et ça s'intitule l'identité chrétienne. Donc, j'ai eu à faire une réflexion, par la grâce de Dieu, bien sûr, sur l'identité, notre identité en tant que chrétien. Comme vous le savez, l'identité, c'est quelque chose d'extraordinaire et sur lequel il y a beaucoup de sujets qui ont été traités. Il y a beaucoup, beaucoup de réflexions sur l'identité. On parle de l'identité des nations, l'identité en tant que nation autochtone, on a une identité. Et les immigrants, et qui font face à des problèmes de double identité, etc. Donc, il y a beaucoup de réflexions sur l'identité. Mais ce matin, c'est l'identité chrétienne qui nous intéresse. J'ai eu une information et dans un journal et qui est sorti en Norvège, à Oslo, en Norvège. C'est qu'un matin, il y a quelqu'un qui s'appelle Anders Behring Breivik, c'est son nom, il a commis un crime crapuleux et révoltant. Mes bien-aimés, nous avons appris que ce monsieur, il a tué 80 personnes dans un quartier de la ville à Oslo. 80 personnes. Maintenant, après cet acte crapuleux, eh bien, on cherchait l'information pour savoir c'est qui a commis ce crime et qu'est-ce qui était derrière ce crime, quelle était la motivation de l'individu. Eh bien aimé, à mon grand étonnement et au vôtre également ce matin, on a appris que ce monsieur, il était un raciste et un chrétien fondamentaliste. Et là, ça m'a poussé à une grande réflexion. Il était chrétien fondamentaliste. Et ça a poussé à de grandes réflexions. Et moi, personnellement, je me suis dit, mais ce monsieur, il avait une identité, entre guillemets, chrétienne, comme chrétien fondamentaliste. Et j'ai été voir le chrétien fondamentaliste, qu'est-ce qu'on dit d'eux? On dit qu'un chrétien fondamentaliste, il s'oppose aux interprétations modernistes de la Bible. Et le chrétien fondamentaliste, il souhaite le respect intégral de la religion. Et il réclame l'influence de la religion sur la vie politique. Eh bien, aimé, vous voyez déjà la différence. Un chrétien fondamentaliste et un chrétien authentique serviteur du Dieu vivant. Ce matin, mes frères et sœurs, il nous arrive à nous questionner sur notre identité, sur notre vraie identité en tant que chrétien. Sommes-nous fondamentalistes, baptistes, pentecôtistes, ou sommes-nous un vrai chrétien authentique, serviteur du Dieu vivant? Lavé par le sang de l'agneau, racheté par Jésus-Christ. Monsieur, comment il s'appelle encore? Monsieur Breivik, Behrin, il était chrétien fondamentaliste. Et regardez ce qu'il a commis comme crime, il a tué 80 personnes. Ce matin, mes bien-aimés, quand on lit les enseignements de Jésus-Christ à travers les écrits de ses apôtres sur l'identité des croyants, nous sommes amenés à nous déduire, à déduire que ce monsieur qu'on vient de décrire, Breivik, nous ne voulons pas dire qu'il n'était pas chrétien. Vous voyez, nous voulons juste aménager notre langage, mais est-ce qu'on peut dire que ce monsieur, il était chrétien? En tout cas, il n'était pas un chrétien comme Jésus-Christ décrit les chrétiens dans sa parole. Il n'avait rien à voir avec un chrétien, pouvons-nous dire, car il ne suffit pas de se réclamer haut et fort d'un secte ou d'une congrégation ou une dénomination quelconque pour être chrétien. Mais il faut cependant vivre comme tel et laisser ainsi un impact positif sur le monde qui nous entoure. Car tout chrétien digne de ce nom porte la marque de Jésus-Christ et a son identité. Si je dois vous laisser ce matin, je vous laisserai avec cette phrase. Tout chrétien digne de ce nom porte la marque de Jésus-Christ et porte aussi l'identité de Jésus-Christ. En Éphésiens chapitre 4, que nous venons de lire, l'apôtre Paul est en train d'exhorter les chrétiens d'Éphèse à marcher d'une manière digne de l'Évangile et d'une manière de la vocation qui lui a été adressée. Cette vocation, mes bien-aimés, le docteur, ou le professeur Donald Cobb, il essaie d'analyser l'identité chrétienne. Il nous dit que Paul n'a pas trop insisté sur l'identité chrétienne dans ses écrits, pour la simple et bonne raison que l'interrogation sociale sur la construction de l'identité chrétienne personnelle est récente et liée à notre société actuelle qui a tendance à faire de l'individu le point de départ de la réflexion pratique et théorique. Paul n'entre pas dans cette perspective. Il est chargé d'une mission. Et sa préoccupation n'est pas que les églises qu'il a fondées fassent de l'introspection, c'est-à-dire une observation psychologique effectuée par le sujet lui-même, mais qu'elles soient au contraire prises dans une dynamique de témoignage et d'expansion. Mes bien-aimés, je me propose ce matin de vous faire découvrir au moins deux éléments de l'identité chrétienne dans ces quelques chapitres de l'apôtre Paul. D'abord, nous allons voir la situation des premiers chrétiens qui luttaient pour la sauvegarde de l'identité chrétienne. Ce matin, nous aussi, nous sommes appelés à sauvegarder notre identité chrétienne. Deuxièmement, nous pouvons voir ce matin comment les chrétiens ont appliqué, comment ils ont appliqué la sauvegarde de l'identité chrétienne dans leur vie. Mais bien aimé, nous devons noter qu'il y avait une diversité dans les églises que l'apôtre Paul a établies, y compris l'église d'Éphèse. Question d'ethnicité, il y avait beaucoup de problèmes. Par exemple, la plupart des églises avec lesquelles Paul était en relation, il était composé à la fois de judéo-chrétiens. Les judéo-chrétiens, c'est-à-dire ce sont des gens qui croient encore dans la loi, les judaïsants, c'est-à-dire appliquer et la loi et la grâce en même temps. Donc, par conséquent, certaines églises étaient tiraillées entre deux identités différentes. Incontestablement, les premiers chrétiens, et particulièrement ceux d'origine juive, ils pouvaient subir des hostilités de la part des juifs non chrétiens et pour qui la foi chrétienne était une forme déviante du judaïsme. Si nous aurions le temps, nous aurions pu lire en Actes 17, versets 5 à 9. À côté de cela, les églises pauliniennes, ils rencontraient également des difficultés dans leur rapport avec la société païenne. Mais bien-aimés, ce matin, nous sommes au Québec, société laïcisée. Mais nous avons aussi notre identité à garder. On nous dit que la confession de l'unique Dieu qui s'est fait connaître en Jésus-Christ entraînait nécessairement un rejet des innombrables divinités qui constituaient le panthéon gréco-romain. Les chrétiens, les premiers chrétiens, ils étaient en face de beaucoup de difficultés par rapport à leur identité. Ne sommes-nous pas en train de vivre ces mêmes ou bien des difficultés similaires dans notre société? Chers jeunes, quatrième dimanche, dimanche de la jeunesse, comment gardez-vous votre identité à l'université? Au cégep, à l'école secondaire. Ce matin, nous sommes appelés par la parole de Dieu à nous revoir, à reconsidérer notre identité. Nous, pas même gens avec l'autre monde, nous avons notre propre identité. Nous. Et il y a un pile bagaille, il y a dit nous, et les noms faciaux. Si par contre qui est-ce nous pour nous quelle identité nous, eh bien, passer parmi la foule. Eh bien, aimé, nous avons pris l'exemple dans le pays ça par rapport à Jean, nous n'y voulons pas gagner au fait que des travaux côtoyés, identité en jeu, mais bien aimé, et des travaux que vous obligez au fait, identité en jeu. Est-ce que vous obligez de faire travail sérieux parce que faut que vous gagnez le pain? Il y a les factures qui vous attendent. Mais au-delà des factures, il y a votre Dieu qui compte sur vous. Amen. Au-delà des dettes que nous pourrions avoir, nous avons notre Dieu qui compte sur nous, qui compte sur nous pour que nous gardions notre identité. Question d'éthique. J'évite de donner certains exemples dans ce message, parce que ce message peut aller très loin. Mais, mes bien-aimés, je vous dis que j'ai combattu le bon combat, comme l'apôtre Paul l'a dit. J'ai combattu. Et vous aussi, je sais que, mes bien-aimés, vous êtes en train de vous battre. Et vous avez déjà aussi combattu de bons combats pour garder votre identité. Mais le Seigneur est venu vous rappeler ce matin qu'il faut continuer à vous battre pour garder votre identité. Parce que il y a une différence entre nous et eux. L'identité chrétienne, nous devons la garder. Parce que nous, Dieu soit loué, nous sommes au Québec, c'est vrai, c'est laïcisé, mais nous avons encore certaines libertés. Les chrétiens d'autrefois, écoutez, César lui-même, de son vivant et après sa mort, il était considéré comme le divi filius, c'est-à-dire fils de Dieu. Donc, mes bien-aimés, il y avait des cultes païens auxquels on invitait les chrétiens à participer. Et si on refusait de confesser, cela équivalait à refuser l'allégeance à l'État et à s'élever contre la société. Et ces comportements étaient passibles de mort, c'était des crimes qu'on devait payer de sa vie. Il y avait des pressions énormes qui pouvaient porter les premiers chrétiens au renoncement de leur identité chrétienne. Mais bien-aimés, ils ont tenu bon. Alléluia. Par contre, qui travaille ouye matin, par contre, qui saillent, pousse au fait, c'est comme ça, tout le monde était toujours fait, alors que conscience chrétienne, nous, en jeu. Eh bien, matin, bon Dieu, parlez ni avec moi, ni avec vous-même, pour nous continuer qu'imper identité, nous. Parce que les premiers chrétiens, ils luttaient pour garder leur identité. Et deuxièmement, il y avait aussi la situation dans laquelle les premiers chrétiens se battaient. Eh bien, ils devaient garder cette identité chrétienne dans la différence. Paul, il a fait une nette différence entre les chrétiens et la société dans laquelle ils évoluent. Si nous pouvons lire en 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 5 à 8, 1 Thessaloniciens 5, versets 5 à 8, c'est très important. C'est un texte qui nous dit qu'il y a une différence entre nous et les autres. 1 Thessaloniciens 5, versets 3 à 8. Je vais lire pour vous, mes bien-aimés, si vous avez un peu de temps aussi pour prendre votre Bible avec moi. 1 Thessaloniciens 5, versets 3 à 8. OK? Et je lis pour vous. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Amen. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Et au verset 6, il nous dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Donc, nous sommes différents. Versets 7 et 8, nous pouvons continuer. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. C'est cette différence dans laquelle nous devons garder notre identité. Parce que nous sommes différents des autres, mes bien-aimés. En Éphésiens 4, versets 17 à 18, la même opposition est faite entre chrétiens et membres de la société. Éphésiens chapitre 4, versets 17 et 18. Et je lis pour vous. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Et oui, dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Éphésiens 4, 17 à 18. Nous sommes différents de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent dans les ténèbres. Nous n'avons pas la même identité. Nous n'avons pas la même bagaille. Nous avons une différence. Et nous vivons dans la différence parce que nous avons l'espérance de l'au-delà. L'espérance de l'au-delà. Paul ne cesse de faire cette différence dans ses écrits entre fils de lumière et fils des ténèbres. Nous avons une autre identité, mes bien-aimés. Paul savait que cette différence était essentielle pour maintenir une spécificité chrétienne dans le contexte laïcisé. Aujourd'hui encore, Paul aurait raison d'exhiber ces mêmes paroles pour nous amener à garder notre identité. Malgré cette différence, c'est vrai, nous devons toujours éviter de regarder les autres avec dédain. Ce sont nos frères et sœurs, nous devons les amener à l'évangile, mais tout en gardant la différence, tout en gardant notre identité. Le chrétien doit garder son identité malgré les obstacles. Les obstacles, nous aurons beaucoup d'obstacles. Nous pouvons être exposés de perdre notre emploi, de perdre quelques privilèges. Mais quelle est la différence entre notre identité chrétienne et ses privilèges? Mes bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut nous rappeler que nous avons une perspective future différente de celle des non-chrétiens qui nous disent qu'il n'y a qu'une seule vie. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc, profitons de tous les moments. C'est ça, yo dit nous, parce que yo même, yo pas ou elle, même gens avec nous. L'avenir détermine pour le chrétien l'orientation et le comportement présent. Mais bien aimé, quel rappel ce matin, quel un message que le Seigneur veut nous rappeler. Le fameux slogan « One life to live », c'est pas pour nous, chrétiens. Nous n'avons pas une seule vie à vivre. Parce que nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ pour aller vivre pour l'éternité avec lui. Rien à perdre, tout à gagner, disent-ils. Tous les chemins mènent à Rome, mais heureusement, tous les chemins ne mènent pas au ciel. Amen. Combien de fois avons-nous oublié notre espérance et avons-nous prêté le flanc aux détracteurs de l'Évangile? Nous avons certaines fois malheureusement oublié, laissé traîner notre identité. Mais ce matin, le Seigneur nous rappelle ou bien nous enseigne que nous devons toujours garder notre identité. En effet, si déjà nous jouissons d'un salut obtenu en Jésus-Christ, nous ne le possédons de fait qu'en espérance. Selon Romains chapitre 8 et les versets 23 à 25. Ce dont nous nous glorifions, c'est-à-dire les assises de notre identité, c'est l'espérance de la gloire. Gloire dont l'acquisition totale reste future. Dans l'épître aux Colossiens, Paul invite les chrétiens à chercher les choses d'en haut. Il précise que notre existence physique et psychique, notre homme extérieur, se détruit. Pourtant, en raison de celui auquel ils appartiennent, la destinée ultime des chrétiens toute son expression parfaite et sa réalité présente en celui qui siège à la droite du Père. L'identité véritable du chrétien est cachée en Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce que nous sommes, notre identité, est indissociablement liée à notre identification avec le Christ. Mes bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous rappelle, nous avons une identité. Les chrétiens qui étaient avant nous se sont battus pour garder cette identité. Nous sommes en train de nous battre. Oui, je le sais. À vous tous qui m'écoutez, nos amis qui nous écoutent, nos visiteurs, s'ils ne connaissent pas encore Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, peut-être qu'ils n'ont pas encore. Et il y a des gens, malgré qu'ils ne connaissent pas encore la parole de Dieu, mais ils se battent pour être des hommes, des gens qui gardent la morale. C'est très bien. Mais nous devons aller plus loin. Ce n'est pas suffisant d'être un moraliste, mais il faut être un chrétien authentique, disciple de Jésus-Christ. Quelqu'un qui sait que le Seigneur l'a choisi et veut qu'il vive pour lui. Et ceci, par sa grâce, par son amour, dans sa fidélité, le Seigneur va pouvoir l'aider à marcher d'une manière digne de la vocation qui lui a été adressée. Le chrétien digne de son nom porte en lui la marque de Jésus-Christ, son Seigneur. Les premiers chrétiens, ils ont livré de rudes batailles pour sauvegarder leur identité. Ils ont fait de leur mieux pour marquer la différence dans leur société qui était entachée de problèmes d'ethnicité. Et enfin, ils ont compris l'identité dans une perspective future. On raconte, mes bien-aimés, qu'un soldat israélien, il était âgé de 23 ans, il avait décidé d'intégrer l'armée palestinienne. Cette démarche a suscité la suspicion tant du côté israélien que du côté palestinien. Ce jeune garçon, nous pouvons dire, il souffrait d'une crise d'identité. Et automatiquement, il est exposé à la mort. Mais bien aimé, c'est extrêmement important, l'identité. Si vous êtes soldat israélien, pourquoi voulez-vous intégrer l'armée ennemie, l'armée palestinienne? Automatiquement, ce jeune garçon, il est exposé à la mort. M. Vintounen traite des deux côtés. Il traite ni pour l'armée pays, Israël, et pas parler même pour l'armée israélienne, sans venir chercher dans l'armée ça, ou voulait intégrer l'armée. Il va être tué par les Israéliens, par les Palestiniens. Il a été tué. Mais bien aimé, le Seigneur gardez-nous dans pile situation comme ça. En pile fois, nous abandonner l'armée, nous, oui, dans l'intégrer, peut-être des fois, à notre insu, sans le savoir, nous entrer dans notre l'armée, oui. Il y a de conversations, il y a de couteaux entrés, ou quitter l'armée pour là, oui. Amen. Ou qu'être exposé à la mort, ou exposé à avilissement par le monde, par le diable, parce que ou quitter l'armée pour là. Savez-vous, mes bien-aimés, chaque fois que nous nous trouvons mêlés dans les affaires du monde, effectivement, nous sommes comme ce soldat. Chaque fois que nous négligeons notre lecture biblique personnelle pour nous ressourcer, pour nous rappeler de la parole de Dieu, des exigences de Jésus-Christ, nous nous exposons. Nous nous exposons à commettre des gaffes, et ceci gaffe après gaffe, péché après péché. Et les pour nous reprendre nous, nous avons pile difficulté parce que nous étant rentrés dans l'autre Arméa. Je te gagne de la mettre main sur nous. Maintenant, mes bien-aimés, en pile dans nous, courir des risques. Peut-être que nous allons arriver dans le niveau ce monsieur à Oslo qui font tuerie, qui tue jusqu'à 80 mounes. Mais Dieu seul sait à qui ça nous est exposé. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il est encore temps ce matin. Il veut nous ramener à lui. Il veut que nous puissions garder notre identité. Le Seigneur, il nous aime et il ne veut jamais avoir notre perte. Mes bien-aimés, que le Seigneur nous aide à garder notre identité chrétienne. Que nous ne puissions, que jamais dans notre vie, nous soyons comme ce soldat israélien qui laisse son armée pour aller s'enrôler dans l'armée ennemie. Que le Seigneur nous aide ce matin à garder notre identité. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes différents des autres. Nous avons une identité pour laquelle nous devons nous battre. Ceux qui se battent, continuons ce matin à nous battre pour garder notre identité. Et vous, mon frère, ma sœur, qui n'aviez jamais compris que vous avez une identité chrétienne, vous devez vivre d'une manière digne de l'Évangile, de la vocation qui vous a été adressée. Vous avez été choisi pour servir le Seigneur et ceci dans la fidélité. Que le Seigneur nous aide, aide chacun de nous ce matin à garder notre dignité, dignité chrétienne, notre identité chrétienne, car nous avons une autre perspective. Nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra nous prendre avec lui pour aller vivre pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse.